Ronnie Broman, bonjour.
Bonjour.
Comment peut-on encore mourir de faim au XXIe siècle ?
Quand on est dans un pays en guerre, il n'y a plus aujourd'hui de famines qui sont dues à des sécheresses, à des invasions de criquets ou d'infections des récoltes. En revanche, dans des régions qui sont isolées par la guerre, lorsque se conjuguent, par exemple comme en Somalie, les effets de la sécheresse, des déplacements de population et d'enclavement de régions qui sont totalement isolées du reste du monde, eh bien là, on peut mourir de faim. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au nord-est du Nigeria l'an dernier, dans la province du Borno, où on estime que plusieurs milliers de personnes sont mortes de faim. C'est ce qui arrive dans certaines régions très spécifiques du Soudan du Sud également, probablement de Somalie. Donc il faut garder en tête que la famine n'est pas du tout un phénomène naturel, bien entendu.
Au Soudan du Sud, voilà plus d'un an que de nombreuses organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme, et pourtant rien n'a été fait, c'est ça ?
Mais rien n'a été fait. Si, il y a tout de même un déploiement très important de casques bleus, d'ONG, mais bon, ce genre de mobilisation ne peut pas effacer les conséquences de la guerre. Si demain, les belligérants décidaient de suspendre les hostilités, de trouver un moyen de sortir du conflit, la question serait très rapidement réglée. Mais aujourd'hui, si nous avions les 4 milliards et quelques de dollars que demande le secrétaire général des Nations Unies, nous ne saurions pas comment les utiliser. Nous ne heurterions très vite à des goulots d'étranglement, à des impasses, parce que les régions les plus affectées sont aussi les régions qui sont impossibles d'accès.
Y a-t-il au Soudan du Sud des groupes armés, voire l'armée gouvernementale, qui affament volontairement les populations ?
Ça, c'est difficile à dire, mais disons que dans leur impatience de conquérir ou de se maintenir au pouvoir, ils s'autorisent tous les coups. Et donc, en se donnant totalement à la guerre, ils acceptent ses conséquences immédiates, que sont les déplacements de population et par conséquent, la famine. Donc, appelons ça de l'intentionnalité ou de la négligence ou du cynisme. En tout cas, ce sont des catastrophes qui sont produites. Cela étant, je crois qu'il faut aussi faire attention à la question des chiffres. Les Nations Unies ont parlé de 20 millions de personnes directement menacées par la famine, 1,5 million d'enfants dans un risque mortel à très court terme. Ces chiffres, moi, me laissent sceptique. Non pas que je nie l'ampleur de la crise, et de ce point de vue-là, les Nations Unies ont raison. En revanche, la quantification qui l'accompagne, elle est beaucoup plus sujette à caution parce qu'on mêle là des populations potentiellement exposées à une famine et d'autres qui sont déjà en train d'agoniser avec des milliers de gens qui sont en train de mourir de faim. Et donc cet agrégat, cette espèce de combinaison de différentes situations n'est pas très éclairante d'une part, elle brouille plutôt le panorama du conflit et en plus elle a quelque chose d'écrasant. Si vous voulez, on se dit, ah là là, si 20 millions de gens sont aujourd'hui susceptibles de mourir de faim, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? L'échelle est bien trop vaste, personne n'est capable de répondre à une telle situation. Donc là, je trouve que cet appel, il mériterait d'être nuancé. La répétition de tels appels catastrophiques risque finalement de lasser tout le monde, les États, les donateurs, l'opinion publique. Il ne faut pas être dans une situation aussi catastrophiste nécessairement.
Le gouvernement de Salva Kiir et les rebelles de Riek Machar ont-ils la même responsabilité au Soudan du Sud ?
Oh oui, je crois que les uns et les autres se livrent une guerre à peu près totale. La seule chose qui limite cette guerre, c'est le manque de moyens très sophistiqués. Il y a très peu d'aviation, il n'y a pas de blindés, on n'utilise pas les gaz, etc. Disons que ce n'est pas comme la Syrie. Mais pour le reste, ils ne s'interdisent absolument rien. Ni les massacres des civils, ni les attaques d'hôpitaux. Tous les coups sont permis, et cela des deux côtés, en effet.
Dans la sous-région, l'Éthiopie et le Kenya semblent moins touchés. Est-ce parce que dans ces deux pays, il y a un État ?
Ah oui, ben, il y a un État, et puis dans l'ensemble, il y a une stabilité, un pouvoir réel, qui n'est pas toujours exemplaire, loin de là, mais on voit bien que ce qu'il y a de pire, c'est pas d'État du tout, ou un État si fragmenté qu'il n'existe pas.
Si l'on en croit les organisations humanitaires, il n'y a pas de problème alimentaire en Érythrée, c'est vrai, ou c'est la propagande de l'État érythréen ?
Alors ça, oui, l'Érythrée est un trou noir politique, il y a très très peu d'informations qui sortent, donc non, moi je ne dirais rien de ce qui se passe là-bas, c'est un pays qui est entièrement érangimenté, où les jeunes sont à l'armée, non pas dans les champs, donc je ne vois pas comment on peut avoir une situation alimentaire qui soit satisfaisante. Donc je mettrai cela en doute, oui.
Pour faire face à cette grande crise alimentaire, non seulement en Afrique de l'Est, mais aussi au Nigeria et au Yémen, le secrétaire général Antonio Guterres veut mobiliser quelque 4,4 milliards de dollars. Est-ce que c'est la bonne méthode ?
Non, je ne crois pas. Mais bon, il y a des contraintes. Le secrétaire général des Nations Unies doit trouver les financements pour les différentes agences humanitaires, le HCR, le Programme Alimentaire Mondial, l'UNICEF. Et bon, il est compréhensible qu'il mette en avant des chiffres. Mais si aujourd'hui les Nations Unies disposaient de ces 4 milliards, elles seraient incapables de transformer ceci en une aide alimentaire consistante atteignant les populations affectées. Tout simplement parce que les zones de famine, précisément, elles échappent aux Nations Unies. Donc moi, personnellement, j'aurais préféré que le secrétaire général des Nations Unies fasse une analyse de la situation de vie, de la situation alimentaire, mais aussi de vie en général des populations soumises à ces régimes de guerre, appelle les belligérants à trouver d'autres moyens de résoudre leurs différends que par la violence, et qu'à ce moment-là, on trouve un panorama politique un peu plus ouvert, un peu plus accueillant, à la fois pour les populations et pour les organisations qui tentent de les aider.
Ronnie Broman, merci.